Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Bonjour Nico, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Très bien, j'aurais plutôt dire bonsoir.
Parce oui, plutôt bonsoir.
Minuit 57, nous sommes Absolument. Le 2 mars. On enregistre cet épisode en rentrant dans Brie-Piotard. On aime bien enregistrer des épisodes sur la route.
Ouais, sur une aire d'autoroute.
Ouais.
C'est original, mais on l'a fait une première fois. On s'était rendu compte que ça jouait plutôt pas mal. Et ouais. Du coup, on n'avait pas la possibilité de l'enregistrer à un autre moment cette semaine, mais pour qu'il soit publié jeudi à 16h comme d'habitude. Donc on s'est dit, tiens, arrêtons-nous sur une aire d'autoroute. Restons dans la voiture qui s'embrume de plus en plus. Là, ça devient presque suspect, je pense. Mais pourquoi pas, finalement. Pourquoi
ouais, et
pas.
Cette fois, la dernière fois, on a enregistré l'épisode, on ne voyait pas la route. Là, on voit l'autoroute.
On voit la route. Donc, ouais, vous verrez durant l'épisode qu'on a même vu.
Convoi militaire
passer sous nos yeux.
Voilà, ne soyez pas surpris. Mais bref, on va pas parler que de ce qui se passe sur l'autoroute devant nos yeux. On parle de quoi dans cet épisode?
On parle de pas mal de choses. Enfin, de pas mal de choses. On parle du choix du club de ne pas avoir engagé de 5e étranger. Pour la fin de la saison, et puis on fait un petit bilan retour sur les 23 matchs dirigés par Yann Cadieux depuis son arrivée.
Oui, parce que Patémon avait été licencié après 23 matchs. Yann Cadieux, désormais, en a joué 23 aussi. Tout ça en environ 23 minutes. Installez-vous confortablement, c'est parti! Et donc Nico, pour ce nouvel épisode, on a décidé tout simplement de parler de plusieurs sujets. On va commencer par un sujet qui n'est pas une actualité. Genève Servette n'a pas recruté de 6e étranger.
Effectivement, et du coup, ça, d'un côté, surpris personne, dans le sens où, avec le retour de suspension de Marc-Antoine Pouliot, on peut presque considérer que Genève Servette joue à 5 étrangers en permanence. Par contre, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu trouver une garantie au niveau du poste de gardien? Dans le sens où... alors. Il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas encore à ce jour, c'est les licences B. On ne sait pas. On suppose que Genève Servette a activé des licences B, mais on ne sait
Genève
pas
Servette
qui.
Genève Servette a activé des licences B.
On sait qu'il y a eu des licences B activées. On ne sait pas qui. On peut supposer que dans ces licences B, il y a un gardien, au moins.
Mais il y a Dominique Niffler.
Dominique Niffler, mais qui normalement devrait faire un bout de chemin c'est avec Clotten en playoff. Donc en principe, il ne devrait pas pouvoir rejoindre Genève, sauf catastrophe industrielle du côté de Clotten. Donc la question qu'on se posait un petit peu, c'était de se dire est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller chercher un gardien étranger en cas de blessure de Gauthier Desclous? Parce que l'année passée, on avait la chance d'avoir Daniel Manzato prêt à prendre la relève au pied levé comme ça. Là, de confier des playoffs à Stéphane Charlin, on touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais en cas de blessure de Gauthier Desclous, ça serait. Un problème un peu plus, ça sera un peu plus dangereux que quand on avait Manzato sur le banc.
Et c'est pour revenir avant de parler des gardiens, de parler aussi des joueurs de champ, ne pas aller chercher finalement un 5e étranger, parce qu'on dit 6e, parce qu'on sous-entend que Marc-Antoine Pouliot est encore étranger, mais il compte comme Suisse, donc c'est un 5e étranger. Et j'aime beaucoup la justification de Marc Gauthier qui dit que si on va chercher un 5e étranger, c'est parce qu'on n'est pas content des 4 étrangers qu'on a maintenant sur la glace, et on l'est. Si on prend, on va pas faire un bilan forcément des étrangers maintenant, on le fera ça en fin de saison, vous nous connaissez maintenant, on aime beaucoup faire des bilans, on fera plusieurs épisodes, mais si on regarde les 4 étrangers, effectivement, je vois mal déjà quel type de joueur on pourrait les trouver sur le marché maintenant.
Il y a tous ceux de KHL.
Il y a tous ceux de KHL, notamment du Yoker et Tedzinki, on l'a vu avec...
Alors je comprends, je suis désolé, non, mais c'est juste pour rebondir. Ça y est. Non, pour rebondir, c'est de mon point de vue. Alors après, il y a une différence, c'est que Marc Gauthier est directeur sportif d'un club de Liga. Moi, j'essaie de faire des théories de mon côté, donc évidemment qu'on n'a pas les deux.
Dans une voiture
sur l'air d'autoroute, parce qu'on vous l'a pas précisé.
Dans l'intro.
Enfin, dans l'intro, on vous en a rapidement parlé, mais. Marc Gauthier, c'est mieux que moi ce qu'il fait, bien évidemment. Mais pour moi, le fait d'aller chercher un étranger supplémentaire, c'est pas parce que t'es pas content des 4 que tu as sous contrat, c'est que tu dis au cas où il y en a un qui pète, blessure grave, fin de saison, et tu as une solution de repli.
Contact fortuit avec un arbitre.
Par exemple, une suspension mal venue ou autre. C'est plus pour te prémunir que dire aux 4 qui sont là, on n'est pas content de vous.
Après, le problème, c'est que si tu fais ça, tu engages un 5e joueur que tu ne ferais pas jouer parce que tu es content des 4 premiers, des 4 qui jouent. Donc si en cas de blessure, tu enverras un gars sur la glace qui ne jouerait pas, qui n'y aura pas joué depuis longtemps, depuis en tout cas 2-3 semaines, et ça, c'est beaucoup qu'il est sur glace 2-3 semaines. Enfin, il y a ce risque aussi, la justification de... et c'est un pari, finalement, le métier de directeur sportif, on en a déjà parlé une fois, est un pari en soi. Là, il y a ce pari à prendre, alors qu'il y a un convoi militaire qui passe.
Ça, c'est les joies, d'enregistrer sur un autoroute, c'est assez classe. Donc, on enregistre et on va passer en convoi militaire.
Voilà,
à minuit,
les pontonniers. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette justification, c'est se dire, ok, c'est un pari, on prend le pari d'avoir 4 étrangers qui vont tourner jusqu'au bout. On touche du bois, comme tu l'as dit, même si dans la voiture, beaucoup de choses sont en plastique.
Effectivement, c'est compliqué de trouver du bois. J'ai cherché avant, mais j'ai pas trouvé. Non, après, effectivement, on aurait pu aussi imaginer un étranger qui arrive, à qui tu donnes quelques matchs, enfin 2-3 matchs sur les 10 qui restent, enfin qui
Mais à
resteraient.
détriment de qui?
Pardon?
Au détriment de qui?
Après, voilà, il faut, en fonction du profil que tu vas chercher, est-ce que tu dis si tu vas chercher un gardien pour le tester un peu en championnat, tu reposes des clous sur une journée, tu sors à l'étranger de l'alignement pour le laisser souffler un petit peu. Évidemment que voilà, y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas comme d'habitude. On voit qu'il y a quelques clubs qui ont fait le choix d'aller chercher un 5, voire 6, voire même Lugano, qu'on est à 8, je crois, d'étrangers.
Ouais, je trouve qu'il y a plus de limite.
Mais donc, tu l'as dit, c'est un pari. C'est encore une fois, c'est une décision qui a été prise probablement enfin avec toutes les parties prenantes dans le club. Donc on leur fait confiance. C'est toujours pareil. Si tu fais des super play-offs avec tes quatre étrangers, avec qui tout s'est bien passé, personne ne va venir te taper sur les doigts. Et puis si tu as, encore une fois, je sais pas, Tom Ernest qui prend 8 matchs de suspension pour un truc, et puis Winnie qui se blesse, on va dire oh, mais pourquoi vous n'êtes pas allé rechercher un supplémentaire? C'est toujours pareil, on est toujours plus intelligent après. Le club a pris sa décision, a décidé d'aller dans cette direction. Ça, en soi, ça ne me choque pas. C'est plus, pour moi, c'est plus le poste de gardien qui. Tu dis, là, s'il arrive maintenant un problème avec Gauthier Desclous. Sans manquer de respect à Stéphane Charlin, mais ça complique quand même toute la fin de saison et les pré- ou play-offs tout court.
C'était Stéphane Charlin qui gagne actuellement du temps de jeu. Du côté de Langenthal aussi, il se permet de mettre des petites feintes aux attaquants.
Absolument, ouais, aux attaquants si vous ne l'avez pas vu, ouais, une petite recherche YouTube. Là,
ouais, je pense sur MySports, vous pouvez aller sur la page alémanique de MySports. Ils ont mis ça en réel, donc voilà, allez voir sur Instagram. Mais oui, donc on parlait des étrangers. Alors le 1er mars, hein, c'était la date butoir pour recruter un étranger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux étrangers du Yokai et Tenziki qui sont arrivés, dont un qu'on a vu il y a quelques heures hein, encore,
ouais,
c'était Juvenen,
Embry,
le nouveau gardien d'Ambrì Piotta. On peut rapidement, je dirais, on va pas de nouveau hein, faire le bilan des étrangers, mais est-ce que du coup, on est vraiment content de ces quatre étrangers?
Ah, je trouve compliqué de pas l'être. Alors, on va dire que Tom Ernest, on touche pas, c'est évident. Enfin, évidemment qu'on est content.
Ouais, il a une petite baisse de régime là depuis.
Ouais,
le...
il a le contre-coup du JO, mais je me fais vraiment, vraiment pas de soucis pour lui. Winnie, qui est meilleur buteur du championnat actuellement ou co-meilleur buteur du championnat, je le trouve moins, comment dire, il pète moins souvent des plombs que ce qu'il pouvait faire par le passé. Ça lui arrive de temps en temps, mais je trouve que c'est un peu moins régulier. Phil Poula, il a peut-être pas des stats reluisantes, on va dire, il a pas 50 points, mais je trouve qu'il est super précieux. Alors il a marqué 2 buts hier soir, enfin avant-hier soir quand vous nous écouterez, lors du match à Ambrì. Je pense pas qu'on puisse être déçu de Valtteri Phil Poula. En tout cas moi je le suis pas.
Non, il a un apport dans le jeu. C'est un peu comme un Joël Vermine. C'est un joueur qui va plus travailler pour faire marquer les autres que marquer lui-même. Mais c'est vrai que quand il s'assied aussi avec Joël Vermine, on a vu ça avant.
On a vu
soir.
Ça. Vermine, il a 19 buts. Phil Poula, il est dans une saison quand même plus que correcte.
Il a 15 ou 16.
Non, il a marqué ses 15 et 16e buts à Ambrì mardi soir. Après, il pourrait y avoir une discussion autour de Vatanen, peut-être. C'est des quatre, on va dire que. Pour moi, c'est peut-être celui dont le statut pourrait être le plus.
Et c'est dire. Parce qu'il,
et c'est dire. Et voilà,
il a
c'est
connu
vraiment...
des périodes délicates. Il a connu cette reprise après janvier compliquée où on a cru comprendre qu'il avait eu le Covid, etc.
Ouais, que c'était un Covid compliqué pour lui, effectivement.
Et à ce moment-là, on a commencé à avoir des doutes, à juste titre, parce que ses performances n'étaient pas très bonnes. Il y avait Marco Moret à côté qui, lui
qui
aussi,
était,
apparemment.
Ouais,
du coup, la paire était catastrophique.
C'est ça.
Mais voilà, moi je trouve que depuis l'annonce de la prolongation de Marco Maurer, je trouve que cette paire, elle a presque de la, je veux pas dire qu'elle a de la gueule et que ça devient d'un coup la meilleure paire du pays, je retourne pas ma veste comme ça, mais que cette paire de défense, alors j'élargis un peu le débat sur Marco Maurer qui compte pas comme un étranger, hein,
Ah bon, oui.
Mais voilà, enfin moi je trouve que même Vatanen, il y a même plus de questions à avoir sur lui.
Quand je disais que c'était le seul sur lequel il y aura potentiellement discussion, mais moi, je trouve que. Effectivement, il a été brillant au début. Après, il y a eu un gros passage à vide. On fait partie d'ailleurs, l'avons un peu remis en question. Je trouve que depuis quelques matchs, là, effectivement, il est vraiment bien revenu. On reparle encore une fois de ce match à Ambrì parce qu'on en sort, on enregistre à peine quelques heures après la fin du match. Il fait un magnifique assist sur le premier but de Valtteri Phil Poula. Donc, Vatanen, il est très bon en ce moment, il remplit très bien son rôle. Donc, pour moi, la satisfaction au niveau des étrangers cette saison, elle est quasiment totale. Elle n'est pas à 100%, mais elle est quand même très très élevée.
Ouais. Et donc finalement, voilà pourquoi ne pas aller chercher un joueur, un cinquième joueur, pour briser cet équilibre aussi, parce que l'équilibre il est plutôt bon maintenant avec un Valtteri Phil Poula au centre de la première ligne, un Alain Winnick sur l'aile de la première. On a pardon, on a Sami Vatanen et Henrik Temerlès en défense qu'on ne touche pas hein, finalement, surtout Henrik Temerlès.
C'est ça.
Top scorer de cette formation. Enfin voilà, je pense que c'était bien de faire un petit bilan maintenant.
Oui, je pense que c'était. C'est intéressant parce que
on enregistre ça le jour de la date butoir. Vous écouterez ça deux jours après cette fameuse date du 1er mars pour la limite de l'engagement des étrangers. Chelsea a choisi de ne pas le faire. Une décision qu'on comprend.
On comprend, et puis en plus, vu qu'on parle de bilan, ça nous amène sur le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est le fait que Yann Cadieux a dirigé 23 matchs à la tête du Genève Servette depuis son arrivée au cours du mois de novembre, c'est-à-dire pile poil le même nombre que Patrick Aymon au moment de son départ.
C'est ça, il y a le même nombre, 46 matchs joués par Genève Servette, 23
chacun, ouais.
J'ai un doute. Parce qu'il y a un match où Yann Cadieux était malade. Ouais, bon, bref.
Ouais.
On s'en fout.
Ouais. Mais oui, je crois qu'il y a un match que Franssen a coaché avec Matt.
Ouais, bon, ok.
Ouais. Ben ouais.
Donc 23 matchs de chaque côté. On rappelle rapidement le bilan. Genève Servette était à 23 points. Hein. Patémon était à 1 point par match. Là, Genève Servette naît ce soir. Alors certes, avec un match de plus, mais qui a un petit point de la 6e place occupée par Davos. 73 points actuellement pour Genève Servette. Ce qui veut dire qu'il y a eu 50 points marqués par Yann Cadieux depuis son arrivée à la bande. Sa première victoire en saison régulière à la tête d'une équipe de National League, c'était à Ambry. Sa dernière victoire au moment où on enregistre, c'était à Ambry. Donc en plus, la boucle est bouclée, c'est parfait. Yann Cadieux, je ne sais pas si c'est que lui, si c'est le fait d'avoir été, si les joueurs se sont-ils libérés, mais l'équipe, elle a, pour moi, je pense qu'on peut utiliser le terme de métamorphose.
Ah, mais complètement.
Ou d'éclosion.
Complètement. Tu passes d'une équipe qui tourne à un point par match, qui est 10 fois insuffisant pour espérer quelque chose dans un championnat de ce niveau, enfin dans un championnat tout court d'ailleurs, à une équipe qui tourne à plus de 2 points par match depuis. Si Genève Servette avait. Alors, je ne refais pas l'histoire, mais si on prend juste les chiffres, si tu tournes à 2 points par match toute la saison, Genève Servette sera à la lutte avec Fribourg et Zoug en ce moment pour être en tête du championnat. Depuis 23 matchs, Genève Servette est aussi fort que les équipes de tête du championnat. Mmh. Est passé de la 11e à la 6e, enfin 7e, voire peut-être 6e place si tout va bien dans les jours qui viennent. Il y a évidemment métamorphose, alors ça s'explique probablement par plein de raisons, mais on entend quand même, la parole se délie quand même un petit peu par rapport à Patrick Aymon et à l'ambiance, surtout qui régnait dans le club.
Ouais. L'ambiance, ça n'a plus rien à voir.
Ouais, il y avait clairement un malaise. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour refaire l'histoire, mais c'est juste que l'ombre se délie, on a entendu sur MySport, ils en ont parlé. Enfin, ça commence à sortir un petit peu que c'est au début, quand on nous l'a dit, tout le monde était un peu sur ses gardes. Là, on sait qu'il y avait des problèmes entre Yann Cadieux et Patrick Aymon. Le but, c'est pas de savoir qui avait raison, qui avait tort. C'est juste qu'on a enlevé Patrick Aymon. Ça a manifestement détendu tout le monde parce que les joueurs ont commencé à s'en rendre compte. Et quand tu sens que tes responsables ne fonctionnent pas entre eux, ça va être compliqué de te battre complètement pour eux. Donc, il y a une métamorphose et on l'a assez répété à ce micro à quel point on a du respect pour Patrick Aymon et ce qu'il a fait. Force est de constater que la décision de s'en séparer était manifestement la seule qui était possible de prendre.
Et puis, moi, si on reste même sur les derniers matchs, les matchs de la pause olympique, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette équipe, c'est l'attitude. On en a parlé mardi soir à Ambry. C'est Genève Servette a aussi appris à gagner des matchs de manière moche, a réappris à le faire, parce qu'en début de saison, c'est ce qui manquait au Genève Servette. On voyait beaucoup des joueurs, on l'a dit, on le répète, et je pense que c'est la 5e fois que je prononçais la phrase que j'ai dit, mais Genève Servette cherchait vraiment le beau jeu. Et hélas, contre Ambry, ça a été un match où dans le troisième tiers, on l'a répété plusieurs fois, on s'est presque ennuyé tellement le tir a tiré en longueur. C'était incroyable, je crois qu'on a fait 40 minutes d'antenne à ce moment-là, ce qui est quand même très long pour un tiers.
Pour vous donner
un ordre d'idée, quand on prend l'antenne à 19h30 en avant-match, on va d'une traite jusqu'à la fin du premier tiers, généralement ça dure 45 minutes. Avec un quart d'heure en plus, là on était à 40 minutes d'antenne sur le troisième tiers. Ça a tiré en longueur, le match n'était pas des plus palpitants, mais Genève a quand même gagné 5-1, a réussi à mettre ses 5 buts contre Berne samedi soir. Genève a mal joué, Berne a mal joué, il y a plein de choses qui n'allaient pas, et les joueurs le disent. Arnaud Jacquemet, à l'interview après Ambry, dit « on a gagné, mais il manque la manière ». Les joueurs en sont conscients, mais Genève a gagné. Et je reste persuadé qu'en début de saison, le match de mardi soir contre Ambry, Genève l'aurait perdu, samedi contre Berne l'aurait perdu, et cette attitude sur la glace, ça, et on l'a dit un peu aussi dans la voiture, hein, je crois même que c'était dans le tunnel du Gothard, cette équipe actuellement est capable autant de se faire sortir en pré-playoff parce que après avoir raté de peu la case playoff, comme si on s'excite un peu et si on extrapole un peu, et vous savez que Dieu sait que c'est pas un autre genre.
C'est pas du tout d'autre genre, non.
Allez soulever la coupe.
Mais c'est exactement ça. Il y a tous les scénarios sont ouverts. Il y a des fois des saisons. T'arrives en play-off, tu sais que tu vas pas faire long parce qu'il y a pas assez de flamme.
J'espère que ça aille en 6 matchs, pas en 2 matchs.
Exactement, mais tu sais que cette équipe-là, cette année-là, ne sera pas championne. Il y a des saisons, alors c'est pas arrivé souvent, je l'aime, mais il y a des saisons où tu dis, ok, cette année, c'est la bonne, ça peut être la bonne. Puis il y a des saisons comme celle-là où tu dis, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Tu peux rater les playoffs à la dernière journée et faire une bienne, c'est-à-dire t'effondrer en pré-playoffs contre une équipe qui s'y prépare déjà depuis un moment. Surtout que les adversaires potentiels pour les pré-playoffs, ça commence à se décompter un petit peu.
Ça ne sera pas en Brie.
Ça ne sera pas en Brie, donc ça sera normalement Berne, Lugano ou Lausanne. Ouais. Avec parti comme c'est parti, un avantage Berne, on va dire. Donc une possible confrontation contre Berne. Et après, on a la chance de commenter un sport où il n'y a aucune note artistique. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le patinage artistique ou ce genre de sport où il y a des notes qui sont données. Déjà, quoi que des fois, avec certains joueurs, on pourrait avoir faire la confusion. Mais il n'y a pas un match où il y a 3 points puis tu rajoutes un bonus parce que l'équipe a bien joué. Il y a 3 points, il y a 2 points, il y a 1 point ou il y a 0 point, mais c'est tout. Donc,
et tout basé sur le score.
Et tout basé uniquement sur le score et sur rien d'autre. Donc, savoir gagner des matchs moches, ça fait partie d'une équipe. Enfin, ça fait partie des qualités d'une équipe qui veut faire quelque chose dans son championnat. Tu ne peux pas gagner tous tes matchs en dominant l'équipe d'en face de la tête et des épaules, en proposant des schémas, des entrées en zone parfaites, etc. Non, il y a des fois, tu vas faire du bon vieux dump and chase, là, de balancer le puck au fond, puis de patiner derrière. Ben oui, ça arrive des fois quand tu as des soirs où tu sais, t'arrives pas à faire mieux, ça peut arriver. Il faut aussi savoir gagner ce genre de match. Mardi en Brie, c'était pas tout à fait ça, mais c'était compliqué. Le premier tiers, il était vraiment poussif, et c'est pour rester poli. Genève Servette, t'as fini par s'imposer contre une équipe qui joue un peu sa dernière chance dans le championnat. Donc c'est une équipe qui est capable de tout, vraiment, et comme tu l'as dit, capable d'aller rêver du titre comme de sortir en deux matchs de pré-playoff.
Et puis après, là j'aimerais bien entendre ton avis là-dessus. Il y a aussi on a vu beaucoup de bagarres sur les derniers matchs. Il y a eu, je crois, alors on l'a dit lors du match contre Fribourg, il y a eu 3 bagarres lors des 5 derniers matchs. Enfin bref, il y a eu pas mal de pénalités de suite pour bagarres. Jamais le même joueur, donc pas de suspension automatique. Et ça, c'est malin. Mais il y a une certaine agressivité aussi de cette équipe qui se laisse plus marcher dessus. Et tout le monde va se battre. On l'a vu de nouveau contre Brie. On cite beaucoup ce match. Mais c'est un match qui est assez révélateur quand même de l'état de la forme d'une équipe. C'est-à-dire que dans un match moyen, aller s'imposer 5-1, certes avec un 5e but dans la cage vide, ça veut quand même dire quelque chose. Et que même Temernes ait mettre 2-3 coups à un joueur, parce que enfin, c'était à Isaac Odoti, parce qu'il charge Vermine contre le but. Enfin voilà, il y a cette agressivité. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise agressivité ?
Moi, je pense qu'elle est. Elle est...
Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise.
Ouais, j'ai voulu commencer à répondre ça, mais je me suis dit que je ne le ferais pas. Je pense que tant qu'elle reste dans les règles de ce sport, on va dire d'une certaine manière, il y a des choses qui sont tolérées. Alors la bagarre n'est pas tolérée hein, en tant que telle. Tout le monde dit aux États-Unis la bagarre elle est légale. Moi, si elle était légale, il n'y aurait pas de pénalité derrière. Donc la bagarre est interdite. C'est toujours bon de le rappeler. Après, ça reste un sport un petit peu d'intimidation aussi. Vouloir marquer ton territoire, vouloir montrer entre guillemets que t'es la plus grosse par moment, ça fait partie de ce sport-là. Je ne suis pas choqué par ça, je serais choqué si c'était comme un temps où chaque shift t'envoie un mec dans le seul but d'aller provoquer l'adversaire. Ça, ce n'est pas le hockey que j'aime. Par contre, moi, ça me plaît plutôt de voir un Temernes qui vient faire comprendre à Dotic de balancer un joueur dans le but, ça ne se fait pas. Je pense qu'on... Genève-Servette est une équipe quand même avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de joueurs capables de se faire respecter. Alors bon, apparemment Marco Maurer, quand il propose des bagarres, il décide finalement de ne pas la faire parce qu'il s'est rendu compte
qu'il faisait une tête de plus.
Que Dave Souter n'était quand même pas le dernier des clients à ce niveau-là.
C'était contre Fribourg.
C'était contre Fribourg. Moi, je pense que c'est une agressivité qui est de la bienvenue. Après, je ne demande pas à ce qu'il y ait une bagarre tous les matchs parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse quand je vais voir un match de hockey. Ça fait lever tout le monde. Tout le monde trouve ça génial, mais fondamentalement, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, de temps en temps, s'il faut envoyer un message. Et puis, de voir Tanner Richard se battre, qui n'est pas forcément. On sait qu'il a du caractère. Parce que
face à
Ambul. Ça veut dire, comme tu l'as dit, que tout le monde, quel que soit le statut du joueur, tout le monde est prêt à aller au combat. Et ça, je pense que c'est. Moi, j'essaie plutôt de voir le message positif de ce côté-là. En gardant à l'esprit qu'il ne faut pas tomber dans l'excès de tout ça, parce que c'est toujours pareil. Montrer que tu es costaud, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment. Si tu prends chaque fois 2 minutes de plus que l'adversaire, là, à ce moment-là, ça ne rime plus à grand-chose.
Et puis, au niveau de l'agressivité, moi, c'est la situation défensive. Lorsqu'il y a un rebond accordé par des clous, par le gardien, quand c'est Niffler ou qu'importe, il y a des joueurs dessus tout le temps. Je me souviens avoir commenté, même avant la pause olympique, récemment, des matchs où Genève prenait un but et on disait « Ah, mais il manque quelqu'un devant le goal, là. Il manque un joueur. C'est le rebond, c'est pas normal que ce soit ce joueur de l'équipe adverse qui récupère alors qu'il y a 3 joueurs autour. » Et là, ces derniers matchs, depuis la reprise olympique, Genève-Servette joue moins bien qu'avant la pause. Il y a marche moins sur l'eau, il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Réussit beaucoup plus, c'est 1-0. Hein, Tyler Boyd, Tyler Richard, enfin bref, il y a beaucoup plus de succès là-dedans, il faut quand même le souligner. Mais par contre, il y a aussi, lorsqu'il y a un rebond qui est accordé, 3-4 jeunes voix qui y vont. Il y a vraiment un bloc autour et plus on se rapproche de cette échéance que sont les pré-playoffs ou les playoffs. On rappelle que cet épisode va sortir le jeudi. Il y aura ensuite une semaine complète de championnat. Et le lundi 14 mars, la saison régulière est terminée. C'est-à-dire que le 12 mars contre Lausanne peut déjà être vital. Et à ce moment-là, je le redis, c'est 7135 personnes au Vernet pour ce Genève-Lausanne pour éventuellement sceller la saison. Mais le lundi à Langnau, la saison sera terminée. Et plus on se rapproche de cette échéance, plus l'équipe dégage quelque chose de soudé, quelque chose de cette équipe qui se dit c'est bon, on en a bavé, on a subi en début de saison. Là, par contre, la fin de saison, c'est la nôtre. Il y a une montée en puissance qui est en train de se dégager cette équipe. On voit aussi au niveau des attentes des coachs, hein, l'entraînement de lundi. Yann Cadieux n'était pas très content de l'entraînement parce que les joueurs n'avaient pas tellement, c'était pas tant donné. Alors que moi, de nouveau, je ne suis pas entraîneur de hockey sur glace et je n'arrive pas à juger si l'entraînement techniquement, tactiquement est bon. Mais j'avais l'impression de voir des joueurs qui se donnaient à 100% quand même sur la glace. Et visiblement, ce n'était pas le cas. Donc, il y a vraiment une attente en plus qui est en train de naître. Et je me dis que ce Genève Servette est en train de monter en puissance. C'est la phrase qu'on a répétée pour peut-être se donner du baume au cœur de « on sera une équipe injouable en play-off ». Bah, finalement, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ce que je croise un peu les doigts pour ça quand même.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que même après la victoire à Ambry, hein, je crois que tu as croisé Yann Cadieux qui n'avait pas l'air d'une super humeur non plus.
Ouais, j'ai pas parlé avec lui non plus.
Mais il n'avait pas l'air de. Enfin, en tout cas.
Il est très exigeant.
Et Arnaud Jacquemin, l'interview, l'a aussi dit, hein, c'est une victoire, on va retenir les trois points, puis pas grand-chose d'autre. Ouais. Donc c'est signe d'une équipe qui est consciente de ses capacités, puis du fait qu'elle ne fait pas tout bien en ce moment. Elle engrange les points. Pour l'instant, ça suffit à mettre la pression en avance. Mais c'est. Je pense qu'à mon avis, cette équipe, elle est consciente vraiment de ses forces. Et alors, on peut toujours discuter meilleure équipe, pas meilleure équipe de tous les temps. Bref, c'est toujours cet éternel débat qui revient par rapport à ce que Chris Maxwell a l'habitude
de dire. Je crois qu'elle a la meilleure équipe de tous les temps.
Maintenant, là, effectivement, elle a déménagé un petit peu du côté du Tessin, mais c'est toujours compliqué de comparer parce qu'on ne peut pas comparer toutes les équipes les unes entre elles. Mais quand tu regardes l'effectif là de Genève Servette, qui est au complet, il manque que Marco Miranda pour l'instant. Tu regardes la structure de toutes les lignes, que ce soit défensive ou offensive,
tout va bien.
Qu'est-ce qui manque réellement à cette équipe pour avoir une ambition d'aller chercher un titre? Alors peut-être qu'on est trop optimiste, peut-être que là il y a forcément une partie supporter qui parle et on n'arrive peut-être pas à prendre suffisamment de recul. Et j'en suis tout à fait conscient. Je suis pas en train de dire qu'on n'a rien à envier à l'effectif de Zoug, mais quand on uniquement, sans comparer avec ce qui se fait ailleurs, mais uniquement la composition de l'équipe de Genève Servette, alors il y a Gauthier Desclous qui reste en point d'interrogation, pas par rapport à son niveau, mais par rapport à sa fragilité physique, c'est une chose. Mais défensivement, il y a quand même une stabilité, une solidité qui est plus à prouver. Offensivement, tes trois premières lignes, elles ont quand même. Enfin, il y a quelques années, on se serait content d'en avoir une comme ça, comme première ligne. Là, on a trois lignes qui potentiellement sont des 1-2, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, on va dire, dans ces lignes-là. Donc, si c'était, et cet effectif, il en est conscient de ça. Il est conscient de la valeur, tu es conscient de la valeur du mec qui est à ta gauche et de la valeur du mec qui est à ta droite. Donc, je pense que le club, l'organisation a compris la force de cet effectif-là. Et même si personne ne le dira ouvertement, je suis convaincu que sous le casque des joueurs, il y a une seule ambition, c'est pas les play-offs, c'est le titre.
Ouais.
Et on va pas, nous, commencer à en reparler, à fanfaronner, parce que pour l'instant, les pré-playoffs sont assurés, mais rien de plus. Donc on va
prendre. Pour l'instant, Genève Servette est en
pré-playoffs. Mais moi, je suis convaincu que les joueurs sont un peu en mission, là.
Ouais ça, je pense qu'on verra aussi lors des prochains matchs, lors des matchs. Il y a ce match contre Zoug qui arrive samedi, donc après-demain. Il y a des matchs encore pas.
Il y a le match à Ajoie où Genève Servette a quand même quelque chose à se faire.
C'est ça, deux matchs à Ajoie. Vendredi à Ajoie, mercredi à Genève. Il y a d'abord la réception de Lugano mardi.
Oui.
Il y a des gros matchs qui arrivent et c'est aussi là qu'on va vraiment voir le caractère de cette équipe. Je te propose d'en rester là.
On va gentiment reprendre
la route.
Ouais.
Hein,
on va reprendre là, effectivement.
Juste encore préciser, parce qu'on l'a dit à l'antenne, mais c'est vrai que dans le podcast, on a dit la semaine passée qu'on a arrêté de parler du classement au point par match parce que tous les matchs sont joués pour toutes les équipes. Il y a quatre matchs qui sont par placés. Et qu'ils ne seront pas, du coup, on va devoir parler des points par match jusqu'au bout. Manque de bol, il y a un Fribourg-Davos dans l'histoire, ce qui veut dire que Davos, on va devoir faire des calculs jusqu'au bout au point par match. Quatre matchs ne seront pas rejoués visiblement. Deux concernent à Langnau, deux concernent Fribourg. Il y a notamment un Langnau à Joie qui ne sera pas rejoué. Ouais, alors que les deux équipes,
il ne manquera à personne.
Ouais, les deux équipes ont leur destin scellé, puisqu'on sait qu'ils seront 12e et 13e. Enfin voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Je pense qu'on a tout dit.
On n'a pas tout dit, mais pour cet épisode, on a tout dit.
Magnifique. On va donc reprendre la route. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac, est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, excellente soirée ou excellente journée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Bye bye.